Dans ce cycle que vous suivez, je crois, pour la plupart, dans sa totalité, sur accueillir la vie, j'ai donc la tâche de vous parler ce soir, ou de réfléchir avec vous sur une question un peu délicate de la, ce qu'on appelle, on va développer hein, justement ce terme, mais ce qu'on peut appeler la régulation naturelle des naissances. Et voilà, à travers le titre qu'on a choisi, la fécondité, folie ou choix de vie. Peut-être en introduction, j'ai envie de nous détacher un peu et penser à ce que, nous, ce que signifiait pour nous la fécondité. Bien sûr, fécondité, on pense d'emblée, surtout dans un cycle que vous suivez, après avoir eu un thème comme l'avortement, voilà. On pense à la fécondité du couple, à l'enfant, mais c'est peut-être important aussi de replacer l'ensemble dans un contexte plus large de fécondité humaine. Bon, je pensais à la fécondité intellectuelle, la fécondité de l'artiste, voire la fécondité spirituelle d'un certain nombre de chrétiens, voire d'autres croyants. Voilà, la fécondité, quelque part, il y a l'idée, je crois, de, bien sûr, de donner du fruit, puisque c'est de là que vient le mot. Il y a une idée d'abondance, peut-être en quantité, mais surtout aussi en qualité, une idée de richesse. Il y a peut-être aussi derrière la fécondité la notion de durée, de quelque chose qui demeure, un fruit qui demeure. Et en réfléchissant à ce mot fécondité, j'aime bien l'opposer, ou en tout cas le mettre en concurrence avec une autre logique que j'appellerais la logique de l'efficacité. Et il me semble qu'on peut reconnaître dans nos vies humaines, voilà, peut-être deux types d'activités, celles qui sont du registre de l'efficacité, où il faut qu'on fasse un certain nombre d'activités, mais qui sont probablement plus ponctuelles, plus fugaces, et puis ces lieux où nous sommes appelés plus à une vraie fécondité, quelque chose qui est appelé à durer, à demeurer. Cette distinction entre efficacité et fécondité, elle n'est pas toujours évidente sur le moment. Je ne pense pas qu'on arrive à dire, voilà, là j'ai été féconde, là j'ai été plutôt efficace. Par contre, dans la durée, avec le temps, et peut-être à l'aube de la fin de notre vie, on pourra dire, bah, là c'était des choses fécondes. Voilà, quelque part, il me semble que dans la fécondité, il y a l'idée de porter la vie et que la vie se transmette à travers ces choses-là. Donc j'ai envie de dire que la recherche de fécondité, elle est visée par tout être humain. C'est peut-être la vocation profonde de tout être humain, d'aspirer à ce que sa vie soit féconde, d'aspirer à ce qu'il y ait un fruit qui demeure, qu'on laisse une trace de son passage sur la terre. Ça me paraît important parce que ça vient quand même signifier aussi toute la souffrance qu'il peut y avoir pour un homme, pour une femme, pour un couple, pour de ne pas pouvoir être fécond, d'être stérile, dans une stérilité sous toutes ses formes. Hein. Voilà. Donc cette articulation entre infertilité, stérilité, fécondité, et ça me paraît important de resituer aussi la fécondité conjugale dans l'ensemble. Bien sûr que le couple est appelé à porter du fruit à travers les enfants, mais bien plus largement, il est invité aussi à porter du fruit par ce qu'il est et par la manière dont il va se donner au monde. Et c'est toujours intéressant de replacer la fécondité du couple dans cette dimension globale de l'appel de l'homme à porter du fruit. Mais bon, voilà, ça c'était pour resituer. Et je trouve intéressant de montrer comme parfois, dans notre mentalité, ces deux logiques vont s'entrechoquer, j'ai envie de dire, entre la recherche d'une certaine efficacité et dans la procréation, la recherche de l'efficacité va venir interpeller parfois, et puis cette logique de la fécondité. Alors pour la fécondité conjugale, bien sûr c'est la question de l'enfant, comme le fruit, le signe de l'amour entre un homme et une femme. On sent qu'à travers l'enfant, pour le père comme pour la mère, même si pour le père ça va se faire de façon très différente, il y a l'idée de donner la vie comme je l'ai moi-même reçue, de participer à ce mouvement. Moi j'ai reçu la vie et je vais pouvoir la donner, je vais pouvoir choisir de la donner. Comme il y a une idée de relais, de transmission, recevoir et donner pour que la vie continue. Et étonnamment, cet acte, qui quand même est profondément ancré, qui a toute une importance de faire naître un enfant ou de porter du fruit, étonnamment, il se vit autour d'un geste simple, autour d'un acte assez simple et assez banal, qui est celui de la sexualité, de l'union sexuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé le poids de l'acte par rapport à tout ce que ça va influencer et toutes les questions que ça pose. Et parfois on peut s'interroger voilà, sur le fait que le Créateur ait choisi un acte aussi simple, aussi banal pour transmettre la vie et la vie humaine. Donc c'est étonnamment naturel, peut-être par ce qui nous relie à toutes les autres espèces animales. Donc voilà, un moyen qui est donné au couple pour vivre la fécondité, c'est la sexualité. Et en même temps, et c'est la deuxième partie du titre, folie au choix de vie, c'est-à-dire qu'on sent bien que justement on n'est pas comme l'espèce animale, c'est-à-dire qu'on a un choix. On est libre de choisir si on souhaite porter du fruit à travers un enfant ou non. On n'est pas mu uniquement par des instincts de reproduction d'une espèce qui serait l'espèce Homo sapiens. On est des êtres humains, responsables et libres, libres de choisir. Et ça, c'est important de réaliser qu'au cœur même de cet acte de la sexualité humaine, il y a la place pour un choix, et pour un choix en toute liberté et en toute responsabilité de l'homme. Ça nous amène à dégager trois dimensions essentielles de tout acte sexuel, de toute sexualité. Une sexualité respectueuse de la réalité de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est l'homme et la femme, doit pouvoir articuler entre elles trois dimensions, que j'appellerais la dimension de l'union, de la communication, de la relation, la dimension de plaisir et la dimension de fécondité. Voilà, c'est important de bien réaliser, et c'est là qu'il y a l'espace d'un choix, c'est que c'est pas sexualité égale fécondité, mais c'est beaucoup plus large. Et ces trois dimensions doivent s'articuler dans le même acte. Et que tout l'enjeu, justement, de mon propos ce soir, ce sera de comprendre l'articulation de ces trois dimensions. Et on sent bien que dans l'histoire, dans les interventions que vous avez pu avoir les fois précédentes, le fait que s'articule en même temps union, communication, communion, plaisir et fécondité, c'est un lieu de tension, avec parfois des grossesses non désirées, des situations douloureuses, la délicate question d'avoir parfois à recourir à une interruption volontaire de grossesse, à l'avortement. Tous ces choix qui tournent autour de cet acte sexuel et de ses conséquences. Donc voilà, on sent bien qu'à partir d'une situation bien concrète de l'acte sexuel entre un homme et une femme qui s'aiment, je disais tout à l'heure, un acte relativement banal, en tout cas fortement banalisé par notre société occidentale contemporaine. J'étais pas dans les sociétés précédentes, donc je peux pas dire comment ils jugeaient ces actes-là. En tout cas, pour aujourd'hui, dans la société, dans les médias, dans les films, on sent bien à quel point il est banalisé. Donc, un acte bien concret, bien spécifique, et en même temps l'espace d'un choix éthique majeur et important, qui peut engager toute une vie, toute notre vie ou toute la vie de quelqu'un d'autre. Ce choix peut se révéler par différents questionnements qui peut-être vous habitent, qui nous habitent, qui m'habitent. Par exemple, est-il encore possible d'accueillir au sein de chaque acte sexuel ces trois dimensions, l'union, le plaisir, de fécondité? Est-ce que c'est possible de les unifier encore, ou est-ce que c'est tout simplement une folie, comme le titre l'indiquait? Si cette unité du plaisir, de la communion, de la fécondité a du sens, comment la vivre concrètement? Cela signifie-t-il qu'il faut vivre tout acte sexuel sans limite, avec la perpétuelle possibilité d'accueillir un enfant? Comment respecter cette unité tout en ayant une sexualité adulte, responsable, impliquant une régulation des naissances? Comment penser une conjugalité, une maternité, paternité responsable? Voilà, c'est avec toutes ces questions qu'on peut essayer d'arriver ce soir. Alors face à ces questions, j'ai envie de dire, la société aujourd'hui a fait un choix, en tout cas la mentalité de notre société a fait le choix de dissocier. Elle a fait le choix au nom d'une idée d'une certaine forme de liberté qui doit se détacher d'un donné corporel, au nom d'une certaine forme de volonté qui doit être d'une certaine manière toute puissante, un souci de maîtrise, peut-être aussi un souci d'efficacité. Par plusieurs actes, on sent bien que ces dernières décennies, il y a eu une tentative ou un désir de dissocier les choses, de dissocier union, communion, plaisir et fécondité. Donc d'un côté, la sexualité pour la communion et pour le plaisir, et puis de l'autre, la sexualité pour la fécondité. Et c'est le recours actuel et la manière dont on est pétri par cette idée des méthodes actuelles de contraception, toutes les méthodes confondues pour l'instant. Il y a vraiment dans cette mentalité contraceptive l'idée de de devoir dissocié pour plus de communion, pour plus de plaisir. Mais en même temps, il semble qu'on peut déjà repérer une autre dissociation qui n'était pas forcément voulue au départ, qui est du coup de dissocier aussi parfois communion et plaisir. Comme si finalement l'acte sexuel devait être essentiellement tourné vers la recherche de plaisir, plus que vers la recherche parfois d'union ou de communion entre l'homme et la femme. Voilà, cette idée de dissociation, elle est importante à repérer et elle reviendra plusieurs fois dans nos propos. Et ce qui me semble important, c'est de repérer que finalement, par cette mentalité contraceptive qu'on peut repérer au début du XXe siècle, on a banalisé toutes ces dissociations, on a perdu la notion de leur unité, avec, je le disais tout à l'heure, une absolutisation de la dimension de plaisir dans l'acte sexuel, et malheureusement, je crois, qui a conduit finalement l'inverse, c'est-à-dire à une réduction, voire une disparition du plaisir, en tout cas partagé, dans l'acte sexuel. Pour avoir accompagné beaucoup de couples ou de jeunes, trop souvent, en fait, dans la vérité de la rencontre, on découvre à quel point c'est aussi un lieu de souffrance, ou un lieu de profond déséquilibre entre le désir de l'un et le désir de l'autre. Alors, dans ce contexte, c'est là que est arrivé Humanité, en 1968, ce texte dont on a tous au moins une fois entendu parler, je pense, ou en tout cas qui est véhiculé et retransmis régulièrement d'une certaine manière par les médias. Le souci d'Humanité, c'était de rappeler justement d'abord toute la grandeur et la profondeur de cette union corporelle entre les époux. C'est vraiment de rappeler que c'est une dimension fondamentale de l'union entre un homme et une femme. Et il faut savoir que dans l'Église catholique, le mariage est consacré par le oui donné entre les époux, mais aussi par l'union des corps qui fait suite dans l'intimité de la vie du couple. C'est vraiment complémentaire. Donc c'est vraiment par un souci de mettre en avant que cette dimension est essentielle, mais que cette dimension elle est essentielle quand il y a vraiment cette unité entre les trois dimensions. Et Humanité a vraiment eu le souci de souligner le danger de dissocier union, plaisir et procréation. Et donc, et c'est souvent ça qu'on a en mémoire, elle a encouragé les époux à choisir une attitude responsable par rapport à la fécondité, en ayant recours à ce qu'on appelle la régulation naturelle des naissances, et en choisissant de ne pas utiliser des moyens extérieurs de contraception. Alors, Humanité, on en entend souvent parler parce qu'elle est abordée le plus souvent sous un angle un peu idéologique, passionnel, comme quelque chose qui vient s'opposer à la liberté de la femme, à tout ce mouvement de libération de la femme. On voit bien dans les médias que c'est un des principaux procès qui est fait à l'Église par le monde, régulièrement, dans tous les propos des papes successifs. On entend, on réduit le message du pape le pape est contre le préservatif, contre la contraception, et donc, sous-entendu, contre l'acte sexuel, sauf pour avoir des enfants. Voilà, on sent que c'est un lieu éminemment délicat et sensible encore aujourd'hui. Pourtant, je crois vraiment qu'elle est porteuse de sens, et c'est surtout ça que j'ai envie de transmettre ce soir. Du sens pour l'homme, pour la femme, pour le couple. Et je crois que, bien comprise, ça peut vraiment être un soutien pour une vie sexuelle épanouie, en union, en communion, lorsqu'elle est comprise et bien vécue par les deux conjoints. Donc dans un premier temps, j'ai appelé ça « regard sur Humanité », ou peut-être « écoute » de certains passages d'Humanité, parce que souvent on en entend parler, mais par les médias, donc d'une certaine manière, donc pourquoi pas ce soir prendre le temps d'écouter un petit peu. Et puis après j'ai intitulé « des mots qui dérangent, des paroles qui offrent du sens ». Voilà, j'essaierai avec vous de dégager à la fois de souligner ces mots qui nous dérangent et d'essayer de proposer des paroles qui vont donner du sens à tout ça. Avant, j'ai envie de revenir sur trois fondements qui nous viennent de la tradition judéo-chrétienne, trois fondements bibliques autour de ces trois notions d'union, union, plaisir et procréation. D'abord, dans le premier livre de la Genèse, dans le premier chapitre, je crois que c'est important de repérer qu'il y a une vraie bénédiction de l'union entre l'homme et la femme. C'est vrai, on a peut-être en mémoire, dans le chapitre 1, verset 28, ce commandement qui est donné à l'homme et la femme, « Soyez féconds et multipliez-vous ». Mais c'est important parce que la bénédiction, elle n'est pas rattachée directement à cette notion de fécondité. Elle est beaucoup plus large que le seul fruit de l'union sexuelle, la fécondité, dans ce passage. Par contre, l'apport biblique original, vraiment radicalement original, c'est dans le « une seule chair ». C'est-à-dire, c'est plus tard dans le chapitre 2 où il est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair. » Donc on voit cette répétition biblique « S'attachera à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair. » Et ça, c'est vraiment la radicale nouveauté des rédacteurs du livre de la Genèse. Cette insistance sur l'importance de l'union corporelle. J'ai envie de dire aussi à quel point il y a déjà la place pour une bénédiction du plaisir partagé sous toutes ses formes, et pourquoi pas sous la forme de l'union des corps entre l'homme et la femme. Là, si un jour vous avez déjà réfléchi que le Cantique des Cantiques, si vous l'avez déjà lu, c'est donc un petit passage, c'est un poème, sous la forme d'un poème, avec une grande dimension corporelle de l'amour entre deux êtres qui s'aiment. Il y a beaucoup de descriptions d'un désir corporel qui émane, et il est au centre de la Bible, et dans toute notre tradition, il a toujours été, il est persisté au sein de la Bible. Et alors, parfois on dit, mais c'est une manière imagée de parler de l'amour de Dieu pour son Église. Et puis d'autres fois, on dit, mais non, c'est très concret, c'est pour parler de l'amour de l'homme et la femme. Et peut-être c'est intéressant de réaliser que la tradition n'a jamais tranché. Elle a gardé ce doute ou cette manière de penser les deux. Que finalement, l'homme et la femme, d'une certaine manière, dans la manière dont ils vont vivre leur amour, peuvent être aussi une manière de dire l'amour de Dieu pour l'homme. Et puis le troisième point, je crois, qui traverse toute la tradition judéo-chrétienne, c'est un véritable souci de la souffrance de la stérilité. Plus que d'aborder la question de la fécondité, il y a un souci de prendre en compte la souffrance, en particulier des femmes stériles. On pense à Rachel, à Léa, à Anne ou à Élisabeth, dans le début du Nouveau Testament. Et Sarah. Il y en a d'autres. Donc voilà, un souci aussi de finalement la fécondité prise sous la souffrance de la stérilité. Alors, Humanévité. Donc, Humanévité, c'est un texte qui a été publié le 25 juillet 1968. C'est une encyclique et c'est le fruit d'un travail de Paul VI et d'une commission pontificale pour les questions de population. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Vatican II, donc on a fêté il n'y a pas longtemps l'anniversaire des 50 ans de Vatican II, à Vatican II, ils se sont dit, cette question est trop délicate, il faut qu'on prenne le temps. Et donc, à l'issue du concile Vatican II, les évêques et le pape, a choisi de réunir une commission d'évêques, de théologiens, d'experts, qui ont réfléchi. Pendant plus de 2 ans, ils ont profondément réfléchi et prié pour aboutir à ce texte. Et c'est intéressant de citer cette parole de Paul VI à un journaliste. Donc il disait, après 2 ans de réflexion, de perplexité et d'épreuve, Paul VI dit « Jamais nous n'avons senti comme en cette circonstance le poids de notre charge. Combien de fois avons-nous tremblé devant le dilemme d'une facilité condescendante aux opinions courantes ou bien d'une sentence mal supportée par la société actuelle ?» Je trouve que c'est intéressant de repérer ce dilemme dans lequel était Paul VI à ce moment-là. Et donc c'est là que, donc, en juillet 68, dans un contexte particulier, en tout cas en France, après 1968, je ne suis encore pas née, mais ce message net de l'Église qui voilà, propose un repère net, franc, tranché, au sujet du rapport de la fécondité dans la vie conjugale, dans la vie du couple. Donc oui pour l'abstinence périodique, la régulation naturelle des naissances, et non pour les autres moyens contraceptifs. Alors les arguments, d'abord et avant tout, ce dont je viens déjà parler plusieurs fois, c'est ce lien indissoluble entre union et procréation. Au paragraphe 12, on voit par exemple, cette doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des voies inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Premier argument, donc le lien indissoluble entre union et procréation. Deuxième argument, nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine. Ça, c'est un argument qu'on a bien sûr retrouvé autour des questions d'avortement, qu'on retrouve très fortement autour de toutes les questions de procréation médicalement assistée. Nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du destin établi par le Créateur. De même, en effet, que l'homme n'a pas sur son corps en général un pouvoir illimité, de même, il ne l'a pas pour une raison particulière sur ses facultés de génération en tant que telle, à cause de leur ordination intrinsèque à susciter la vie dont Dieu est le principe. La vie humaine est sacrée, rappelait Jean 23, dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu. Voilà, nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine. Un troisième argument, c'est le respect qui est dû à l'intégrité de l'organisme humain et de ses fonctions. Et là, c'est toute l'anthropologie, toute la manière dont la tradition judéo-chrétienne pense l'homme et la femme, l'être humain, comme une unité entre son corps, son esprit, son âme et son esprit, entre corporel, psychique et spirituel. Et cette unité est indissoluble, il est important de la penser dans son ensemble. Et donc, ce souci de ne pas amputer l'organisme de la femme, de respecter son intégrité. Un quatrième argument qu'on trouve au paragraphe 17, c'est la crainte de la perte de respect du corps de la femme, d'une certaine instrumentalisation de celle-ci. Donc c'est toujours au paragraphe 17. On peut craindre aussi que l'homme, en s'habituant à l'usage des pratiques anticonceptionnelles, ne finisse par perdre le respect de la femme, et sans plus se soucier de l'équilibre physique et psychologique de celle-ci, n'en vienne à la considérer comme un simple instrument de jouissance égoïste, et non plus comme sa compagne respectée et aimée. Vous entendez dans cette phrase, un simple instrument de jouissance égoïste, ce serait la dimension du plaisir, et puis non plus comme sa compagne respectée et aimée, c'est la dimension d'union plus commune. Donc on sent que le souci là, par une dissociation de plaisir et de communion, il y aurait une instrumentalisation de la femme. Un cinquième argument qui est peut-être alors encore plus difficile à entendre dans notre société aujourd'hui, ce serait les bienfaits de l'ascèse. La maîtrise de l'instinct par la raison et la libre volonté impose sans nul doute une ascèse pour que les manifestations affectives de la vie conjugale soient dûment réglées, en particulier pour l'observation de la continence périodique. Mais cette discipline propre à la pureté des époux, bien loin de nuire à l'amour conjugal, lui confère au contraire une plus haute valeur humaine. Elle exige un effort continuel, mais grâce à son influence bienfaisante, les conjoints développent intégralement leur personnalité, en s'enrichissant des valeurs spirituelles. Elle apporte à la vie familiale des fruits de sérénité et de paix, et elle facilite la solution d'autres problèmes. Elle favorise l'attention à l'autre conjoint, aide les époux à bannir l'égoïsme, ennemi du véritable amour, et approfondit leur sens de responsabilité. C'est par la 21. Et puis enfin, le dernier argument que moi j'ai souligné, il est possible bien sûr d'en trouver d'autres, c'est de souligner une subtile mais non négligeable différence entre les moyens de contraception et la méthode de régulation des naissances. Elle est subtile parce que, et vous allez probablement le reconnaître, dans les deux cas, il y a volonté de ne pas avoir d'enfant. Dans les deux cas, il y a volonté de ne pas être fécond, de ne pas procréer. Mais, d'après Humanévité, dans la méthode naturelle, ce qui est important, c'est que ça crée une attitude générale. Dans la méthode dite naturelle, il n'y a pas une contraception, c'est-à-dire au sens d'une interruption de la chaîne de causalité entre union et fécondation, par l'intervention d'un acte de moyen qui viendrait de l'extérieur, mais il s'agit plutôt d'une attitude qui est d'être à l'écoute du corps de la femme en particulier, pour recourir délibérément à des périodes infécondes. Alors, des mots qui dérangent. Je crois que c'est évident aujourd'hui que c'est pas facile. C'est pas facile de les dire et c'est pas facile de les entendre parce qu'on sent bien à quel point ils viennent en opposition ou en contradiction avec ce par quoi nous pouvons être pétris dans notre société ou dans nos mentalités. Et là, il y a un enjeu d'un passage. Un passage à découvrir à quel point ce sont des paroles qui peuvent offrir du sens. J'ai envie de dire, c'est un passage surtout et strictement personnel. Et je ne sais plus, je n'ai pas retrouvé dans quel texte, mais Jean-Paul II, quand il s'adressait à des jeunes, et en particulier aux jeunes couples, en leur disant, mais finalement, vous, en choisissant de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, avant de s'être échangé un oui définitif, ou en choisissant de vivre cette régulation naturelle des naissances, vous êtes des nouvelles formes de martyrs. Alors, c'est peut-être un peu fort, mais d'une certaine manière, ils reconnaissaient le courage de ces jeunes couples à choisir cette position et à la tenir. Donc voilà, un enjeu personnel et un enjeu intime et conjugal dans ce que nous avons à vivre dans notre propre vie de couple. Et pour cela, je crois, une première chose, c'est de dépasser la catégorie un peu binaire du permis défendu. Et j'ai envie de passer d'un interdit à un chemin de vie. Ça me paraît vraiment important. C'est vrai que si on reste dans la dimension un peu binaire, permis, défendu, licite, illicite, ça peut nous choquer. C'est vrai que ce sont des sens un peu techniques qui sont de temps en temps utilisés dans le langage magistériel, du magistère de l'Église, qui viennent traiter de la bonté ou de la malice objective d'un acte. Et en ce domaine, je crois que c'est important de déplacer la problématique du permis, de l'interdit, et de le réserver pour les matières graves, comme la question de l'avortement. Et plutôt d'entrer dans l'idée d'un chemin. Moi, j'aime bien l'idée d'un chemin, d'un horizon vers une visée. Quand j'étais plus jeune, je me posais en particulier toutes ces questions, un jour, un évêque, je crois que c'est l'évêque de Chambéry, qui était venu nous parler, et il avait donné cette image qui m'est restée depuis. Il disait, finalement, les paroles de l'Église, il faut les penser comme un panneau, vous savez, les panneaux d'indication de la circulation, un panneau qui a été usé, abîmé par le temps, puis voilà, qui a des bosses, la peinture est abîmée, mais qui continue à indiquer une direction et a priori la bonne direction pour respecter la vocation de l'homme. Et j'aime bien cette image, voilà, de cette parole d'Église qui peut continuer à nous indiquer la direction, une direction. Dans l'idée d'un chemin, je crois que il faut réaliser que dans un chemin, il y a des étapes, qu'il y a des chutes, il y a des détours, il y a des erreurs, mais que c'est pas parce que on tombe, c'est pas parce que on fait un détour, qu'il faut, j'ai envie de dire, s'endormir. Dans un chemin, il y a l'idée de marcher. Et j'ai envie de dire, pour les couples et pour les jeunes couples aujourd'hui, peut-être, l'essentiel, c'est de continuer à avancer. En 1970, donc 2 ans après la publication de Humanevitae, Paul VI, dans un discours aux équipes Notre-Dame, lui-même, il invitait à dépasser cette catégorie du permis défendu. Et il disait, il s'agit d'entendre surtout, dans ce texte d'Humanevitae, un appel et un chemin pour le couple et pour sa sainteté. Un appel et un chemin vers le bonheur conjugal en vérité. Et c'est vrai qu'on est marqué quand même aujourd'hui par à la fois ce rêve de rencontrer l'amour fou, quand on fait des enquêtes, des sondages auprès des jeunes adolescents, des jeunes un peu plus grands. Il y a ce rêve de rencontrer celui avec qui on va pouvoir vivre une unité parfaite, une unité du corps, une unité du cœur, une unité de nos vies. Il y a vraiment une aspiration profonde qui demeure. Et puis l'idée de fidélité, elle demeure. Même si le mariage est plus ou moins remis en question, mais plutôt par peur de ne pas y arriver, l'idée de fidélité demeure. Et puis en même temps, on voit bien la réalité de tous ces couples, malheureusement, qui souffrent, de tous ces couples qui en sont réduits à se séparer. Et on sent bien la, l'ambiguïté de notre société ou de la manière dont on peut vouloir vivre l'amour aujourd'hui. Et quelque part, il s'agit d'entendre le message de l'Église sur cette dimension particulière de la vie conjugale à travers tout cela, à travers tout ce prisme. Alors, qui dit chemin, dit étape et dit moyen pour prendre la route. La première, c'est de prendre le temps de connaître ces méthodes naturelles de régulation des naissances. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur cette question-là, mais peut-être prendre quelques éléments importants. D'abord, sur le terme. Je crois que c'est plus ajusté de parler de méthode d'auto-observation. Parfois, on utilise les initiales MAO. Ça dit davantage ce que ça veut exprimer. Elle est vraiment basée sur une observation de soi, sur une observation de son propre corps, sur une connaissance intime de son propre corps et de ses fonctionnements. Ces méthodes, elles sont au moins, je dirais, de trois sortes. Enfin, il y a trois sortes importantes. La première, c'est la méthode thermique, qui est fondée donc sur l'observation de la température, du signe de la température de la femme. La deuxième, c'est la méthode qu'on appelle la méthode Billings, qui est la plus connue souvent, qui est fondée sur le signe de la glaire cervicale, qui sera l'étude de la glaire cervicale. Et puis, une méthode qui est finalement vient synthétiser l'ensemble, qu'on appellera la méthode symptothermique, qui observe un ensemble de signes, dont les deux précédents. Alors, je crois que c'est important de... Alors, peut-être certains, vous l'avez déjà entendu souvent, mais je vais vous rappeler en quelques mots un peu ces méthodes, parce que trop souvent, justement, on pêche par ma méconnaissance. Et, par exemple, moi, je m'interroge beaucoup sur la manière dont on pourrait enseigner ces méthodes bien avant qu'on en ait besoin, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce temps, finalement, de l'adolescence, où... Alors, il y a des associations qui se sont créées, je ne sais pas si vous connaissez... Mais je crois qu'il y a tout un enjeu, voilà, presque, j'ai envie de dire, au moment où on commence une vie conjugale, c'est presque un peu tard pour une femme, pour apprendre à se connaître, à se découvrir. Et il y a tout un moment à l'adolescence où ce serait génial que la femme ou la jeune fille, elle puisse elle-même commencer déjà ce travail de découvrir son propre corps, et que ce soit pas un étranger pour elle, en fait, tous ces changements qui se passent à l'adolescence. C'est vrai que l'histoire, en fait, est très axée là-dessus. Alors, la première, c'est donc le signe thermique. Alors, je sais pas si je prends le temps, jusqu'où je suis dans les détails. En gros, le signe thermique, ça, c'est basé sur trois moments importants du cycle d'une femme. La première période, ce sera ce qu'on appelle une période de température basse. C'est au début du cycle, donc juste après les règles. C'est la période qui va précéder l'ovulation. C'est une période où l'ovule est dans le follicule, dans l'ovaire. Il n'y a pas de sécrétion particulière de progestérone. Cette période, donc, basse température. Et puis ensuite, il y a une période qu'on appelle une période de haute température. Donc il y a une élévation de 3 à 6 dixièmes de degré en moyenne. Et puis entre les deux, et c'est ce moment particulier que la femme devra repérer, c'est le moment du décalage. C'est le moment où on va passer d'une basse température à une plus haute température. Donc c'est le moment du décalage parce que c'est le moment du décalage correspond à la période de l'ovulation. La période où le follicule éclot à la surface de l'ovaire et libère l'ovocyte et libère le corps jaune qui va sécréter la progestérone. Donc le secret de cette méthode thermique, c'est donc d'observer la température tous les jours. Alors il y a toute une rigueur, en particulier au départ, et c'est ça parfois qui fait peur, ou qui peut être un vrai obstacle, puisque c'est une température qui doit être prise le matin, au réveil, de préférence toujours à la même heure, avant de se lever, certains mouvements peuvent un peu modifier la température suffisamment pour perdre un peu ses repères, en particulier au début. Les stress, les émotions, les maladies, les médicaments, les voyages peuvent aussi intervenir. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir noter toutes ces choses. Donc, Les personnes qui enseignent ce genre de méthode insistent sur le fait, en particulier dans la phase d'apprentissage, d'être très attentif et de noter tout ce qui a pu se passer pour repérer, des causes extérieures à la modification de la température. Donc l'interprétation, elle se fera à ce moment-là dans le signe thermique sur le moment où, au bout d'un moment, enfin, il y a eu ce moment de décalage où on a l'impression que la température a augmenté, et puis le moment, c'est repéré qu'on est, ça y est, dans la phase de plateau, c'est-à-dire dans la phase où la température ne bouge plus et donc l'ovulation a eu lieu, et là on est vraiment dans une période de non-fécondité. Alors le deuxième signe, donc, j'ai parlé du signe de l'ovulation, c'est donc la méthode Binet, découverte par Monsieur Binet, et enseignée par lui et par ses successeurs, qui va être une étude de la modification de ce qu'on appelle la glaire cervicale. Je ne vais pas rentrer dans les détails hormonaux, mais ce qui est important de savoir, c'est que au moment de l'ovulation, dans les quelques jours qui précèdent l'ovulation, et au moment de l'ovulation, la glaire se modifie radicalement. C'est-à-dire que en début de cycle, juste après les règles, il y a très peu de glaire cervicale, et puis plus on approche de l'ovulation, plus la glaire devient abondante, et surtout plus elle se modifie. Et l'ovulation, elle se reconnaît par la modification sensible de la glaire et des sensations au niveau du col de l'utérus. Et donc ça va être pour la femme tout un apprentissage de reconnaître sa propre manière de sécréter la glaire. Alors c'est délicat de parler ça de cette manière-là, mais voilà, de connaître comment ça se passe chez elle et pour elle. Et donc dans toute cette phase d'apprentissage, il sera aussi important de noter tout ce qui se passe au niveau de la glaire cervicale. Et donc de repérer, l'enjeu étant bien sûr de repérer le moment de l'ovulation, c'est le moment où la glaire devient plus abondante et différente, et puis ensuite, de repérer le moment où on est post-ovulatoire, dans une phase post-ovulatoire. Alors vous voyez, ces symptômes, ils sont importants et en même temps ils sont assez subtils, donc ça demande une connaissance intérieure importante. Et donc souvent on enseigne plutôt de cumuler les deux. Alors après, ça dépend hein, des cours, ça dépend beaucoup de choses, mais on enseigne la méthode symptothermique qui est de cumuler plusieurs signes en même temps. D'abord ces deux signes, donc celui de la température et celui de la glaire cervicale, et puis aussi des signes complémentaires qui peuvent apparaître toujours à la même période. Donc par exemple, alors je donne des listes, hein, mais c'est vrai qu'après c'est vraiment chaque femme a sa manière de fonctionner. Des symptômes qui peuvent être physiques, par exemple, qui peuvent apparaître toujours au moment de l'ovulation ou juste après l'ovulation, des maux de reins, il ne s'agit pas des reins justement, hein, mais des maux au niveau du dos, des douleurs dans le bas-ventre, très localisées. Il y a des femmes qui, de fait, si elles sont attentives, sentent finalement le moment où l'ovulation se passe. Mais voilà, il s'agit d'être vraiment attentif parce qu'il faut être éduqué, il faut avoir éduqué sa manière de s'écouter en fait. Des douleurs dans le bas-ventre, j'ai parlé, des sensations de gonflement, de lourdeur, de picotement, ou des maux de tête. Certaines femmes arrivent à repérer des modifications de l'appétit ou du sommeil dans cette période particulière de l'ovulation ou post-ovulatoire. Il y a aussi tout un nombre de... Donc ça, c'est tous les symptômes physiques. Et puis, il y a un certain nombre aussi de symptômes plus psychiques. Par exemple, une femme disait « Les jours avant l'ovulation sont des jours ensoleillés, alors que ceux après sont nuageux, puis très nuageux. » Vous avez compris que c'est pas de la météo, mais que, une manière de voir la vie, en fait. Finalement, avant l'ovulation, il y a comme... tout est ensoleillé, tout est rayonnant sous le soleil, et puis après l'ovulation, des jours plus nuageux, où on voit un peu les choses plutôt sous leur forme grisâtre. Une tendance morose, un peu, après l'ovulation. Une instabilité d'humeur, une absence de courage, des soucis sans vraiment de cause au moment de l'ovulation et à la fin du cycle. Et ça, en général, les maris sont assez doués pour repérer aussi ces espèces de déprimes post-ovulatoires. Donc voilà, c'est là où c'est très important de... Et vous voyez à quel point ça donne du... J'espère. Ça donne du goût, finalement, d'apprendre à apprivoiser aussi ce qui se passe dans son propre corps. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, La combinaison de ces symptômes avec les signes donc précédents constitue pour ces femmes qui se connaissent suffisamment et qui les ont notées régulièrement un tissu d'informations qu'elles trouvent plus sûres à interpréter que la seule lecture d'un signe unique comme la température ou la glaire. Le fait de savoir que ces divers symptômes sont normaux est en outre apaisant et permet parfois aux deux époux d'en assumer directement ou indirectement le retour de façon plus adaptée. Voilà, ça me paraît important aussi de, dans un couple, cette dimension de pouvoir le vivre ensemble, de pouvoir le vivre à deux, de s'entraider. C'est pas qu'une affaire de femme. Il y a un temps où bien sûr peut-être ça relève plus de la femme, mais il y a tout un, je reviendrai là-dessus, mais il y a tout un enjeu aussi de s'entraider. Alors voilà, dans ce que je dis dans cette manière de développer la méthode d'auto-observation, on sent bien qu'il y a deux obstacles majeurs qu'il va falloir dépasser. Le premier, c'est, je crois, un silence. Un silence. On sent bien qu'il y a une absence totale dans toutes les brochures qu'on peut trouver dans les lieux qui nous parlent des moyens de contraception. Il est, je crois, rarement évoqué qu'il y a cette possibilité d'une régulation naturelle des naissances, ou en tout cas des méthodes d'auto-observation. Donc la personne qui a envie, le couple qui a envie de vivre ça, il est plutôt face à un silence et il doit trouver des lieux pour se former. Et j'insiste sur, voilà, la première chose, c'est vraiment cette notion de se former, de prendre le temps de se comprendre, et ça implique une véritable connaissance de son propre corps et du corps de l'autre, de son intimité. Ça demande du temps, de l'écoute mutuelle. Et ça demande aussi une relation dans la durée. Par exemple, c'est important de réaliser, et ça va mieux en le disant, dans Humanité, ça a été écrit pour les époux. C'est-à-dire pour un homme et une femme qui se sont engagés pour la vie d'une certaine manière. Donc il y a une notion de confiance absolue, une notion de fidélité, qui est intrinsèque à la perspective d'Humanité. Parce que ça demande du temps, de la confiance. Et pas des relations ponctuelles. Donc ça, c'est important. Donc peut-être le premier obstacle, c'est la difficulté de se former, le silence autour de nous, et le fait que ça va demander du temps, et donc d'une énergie particulière à ce moment-là. Et puis le deuxième qui va ensemble, c'est donc la mentalité ambiante. C'est-à-dire que, de fait, on exagère, on a tendance à exagérer le côté aléatoire. On insiste uniquement sur les inconvénients. On sent bien, c'est pas une méthode, j'ai envie de dire, qui est à la mode. Alors, pour continuer sur ce chemin, donc la première, je disais, c'était de connaître, de prendre le temps de comprendre de quoi il est question. La deuxième, de dépasser les obstacles, d'être conscient des obstacles et de choisir consciemment et volontairement de les dépasser en couple. La troisième, je crois, c'est dans tout choix, il y a la notion de discernement. Discerner, ça veut dire choisir entre plusieurs éléments. Et donc, il y a aussi peut-être ce temps où il faut oser, alors j'ai appelé ça oser un juste regard sur les pilules en œstroprogestative, donc sur la contraception hormonale, qui est quand même souvent le penchant le plus souvent proposé, en particulier à la femme. Et c'est vrai que autour de la pilule œstroprogestative, je suis toujours quand même impressionnée sur le fait qu'il y a un vrai silence sur le vécu psychique, mais aussi sur le vécu médical finalement. Moi, j'ai fait toutes mes études de médecine sans jamais avoir entendu parler des conséquences que cela peut avoir pour une femme d'avoir pendant 20 ans des ovules bloqués. Des ovules qui ne sont pas, qui ne produisent pas d'ovocytes. Donc il y a aussi un silence sur les risques médicaux. C'est intéressant quand on interroge, quand on fait une consultation médicale, quand on interroge des femmes, on leur demande est-ce que vous prenez des médicaments? Très souvent, le plus souvent, dans 95% des cas, la pilule n'est pas considérée comme un médicament. Donc elles vont dire, ben non. Alors que, quand même, enfin, je veux dire, il y a intervention d'un processus. On prend une hormone chimique qui modifie le fonctionnement du corps. C'est quand même la définition pour moi d'un médicament. Donc voilà, il y a une espèce de banalisation de la prise médicamenteuse de la pilule jour après jour. Certains, alors voilà, ça, il faudrait vérifier, il faut toujours être un peu délicat sur ces questions, mais pourquoi pas, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de vouloir mettre, absolutiser le plaisir et ces dangers finalement qui poussent peut-être à autre chose. Certains parlent de risque de dépression, ou plus banalement d'une frigidité, d'une difficulté pour la femme à justement éprouver du plaisir, à cause justement de la pilule. Je crois aussi qu'il faut vraiment être conscient qu'il y a un réel risque d'instrumentalisation du corps de la femme. Dans Femme Magazine, en 2008, on lisait un article à ce sujet-là, et une femme disait « Ce n'est plus au bébé que nous sommes exposés, c'est à l'homme. » Ça fait réfléchir, mais quand même. Où Françoise Dolto disait « Il y a un autre aspect de la large utilisation des contraceptifs, c'est la perte de responsabilité des hommes en face des conséquences des rapports sexuels. C'est à toi de te débrouiller, ma vieille, comme si pour eux, l'acte sexuel n'était qu'une simple décharge. Il y en a parmi ceux-là beaucoup qui n'arriveront jamais à une humanisation des relations entre les sexes. » Voilà, dans Le Point, par exemple, en 2007, il y avait un dossier. Et une femme disait que parmi les signes du pouvoir masculin, il y avait la médicalisation de la contraception. Alors, autour aussi de cette question, je crois que il y a l'idée intrinsèque d'une continuité avec la question de l'avortement. Bien sûr, et j'ai dit déjà tout à l'heure, il n'y a pas de commune mesure entre la contraception et l'avortement. C'est très clair. Il y a une radicale différence éthique qu'il faut souligner. Et en même temps, il y a une idée de continuum, avec par exemple l'idée de la pilule du lendemain, avec le stérilet qui empêche la nidation de l'embryon, avec la possibilité maintenant de prendre par exemple le RU 486 jusqu'à 50 jours après l'arrêt des règles. Donc il y a de fait une continuité subtile entre l'idée de prendre un médicament pour empêcher l'ovulation et l'idée de prendre un médicament pour éliminer le produit de la fécondation. Et paradoxalement, dans l'autre sens, il me semble aussi qu'il y a un lien subtil avec l'infertilité, avec les situations de stérilité. Louis Roussel, un sociologue, disait « Mais est-ce que c'est pas étonnant que l'état permanent de la femme aujourd'hui soit celui de la stérilité artificielle ?» François Dolto, toujours la même, parlait d'une castration symbolique. Et récemment, bon, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de procréation médicale non assistée, et il y a un document de l'INED, donc l'Institut National des Études Démographiques, dont le titre était « De la pilule au bébé éprouvette ». Donc ça n'a rien de catho comme travail, et pourtant, il faisait le lien. Et je crois que le lien, c'est dans deux domaines. C'est dans le fait d'une intervention logique de la médecine dans ce domaine de l'intimité, une habitude de l'intrusion, entre guillemets, médicale dans ce domaine. Et puis surtout, alors, à mon sens plus grave, qui est que la contraception et la mentalité contraceptive dont vous parlez tout à l'heure véhiculent l'idée du désir d'enfant sous le mode d'un bouton on-off. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'avoir un enfant, je prends la pilule, je veux avoir un enfant, j'arrête la pilule et donc j'ai un enfant. Et très souvent dans les consultations de procréation médicalement assistée, on voit des couples arriver très vite après arrêt de la pilule, comme s'il fallait que dès que j'arrête la pilule, ça y est, je sois à nouveau totalement féconde. Or, voilà, avoir un enfant, et pas faire un enfant, je lutte pour qu'on fasse la distinction. On ne fait pas un enfant comme on fait un gâteau. Voilà. C'est plus compliqué que ça. Et j'aime bien l'idée de dire on conçoit un enfant. C'est-à-dire qu'il y a toute une unité. Ce n'est pas que de la simple volonté. Et en tout cas, pas sous un bouton autre. Donc voilà. L'idée que subtilement, cette dissociation dont j'ai parlé plusieurs fois, introduit des coupures, en fait, brutales, dans le rapport à la fécondité. Donc, j'ai parlé du nécessaire chemin, j'ai parlé de connaître. Si je veux insister maintenant pour finir sur les différences, sur le sens profond de cette position de l'Église catholique comme un chemin, comme une visée pour le couple, Jean-Paul II parle d'une différence anthropologique fondamentale. Donc c'est dans Familiaris Consortio, au paragraphe 32. La différence anthropologique et en même temps morale existant entre la contraception et le recours au rythme périodique est une différence beaucoup plus importante et profonde qu'on ne le pense habituellement et qui, en dernière analyse, implique deux conceptions de la personne et de la sexualité humaine, irréductibles l'une à l'autre. Le choix des rythmes naturels comporte l'acceptation du temps de la personne, ici du cycle féminin, et aussi l'acceptation du dialogue, du respect réciproque, de la responsabilité commune, de la maîtrise de soi. Accueillir le temps et le dialogue signifie reconnaître le caractère à la fois spirituel et corporel de la communion conjugale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau dans toute la théologie de Jean-Paul II sur le corps. C'est vraiment de parler du corps comme le sacrement primordial. C'est-à-dire que ce qu'on va vivre avec notre corps participe d'une dimension spirituelle de l'humain. Et ça, déjà et avant tout, dans la relation conjugale, corporelle. Donc, signifie reconnaître le caractère à la fois spirituel et corporel de la communion conjugale. Dans ce contexte, le couple expérimente le fait que la communion conjugale est enrichie par les valeurs de tendresse et d'affectivité, qui constituent la nature profonde de la sexualité humaine jusque dans sa dimension physique. Voilà, la place de la tendresse, de l'affectivité, comme complémentaire, comme participant pleinement de l'acte sexuel. Alors j'avais envie de vous parler d'un livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc j'ai encore plus de joie à vous en faire la pub. C'est Thérèse Jacob Argaud, qui s'appelle « Pour une libération sexuelle véritable ». Alors c'est vraiment un livre moderne, parce que parfois sur ces thèmes-là, malheureusement, il y a des choses un peu, j'ai envie de dire, vieillottes. Mais elle est vraiment, d'abord elle est jeune. Alors par exemple, je vais vous lire juste ce qu'elle a marqué derrière. « J'ai 25 ans, je suis née avec le droit à la contraception. On ne m'a pas demandé si j'étais pour ou contre, là n'est d'ailleurs pas l'enjeu. Mais je suis une de ces jeunes impertinentes qui osent poser des questions. Quelle est cette fameuse liberté qui se vit dans la dépendance au médecin, par l'intermédiaire de la technique? À quoi sert-il d'être disponible en permanence quand le désir est sous contrôle d'hormones artificielles? Au nom de quoi ou de qui les femmes devraient-elles accepter les risques des effets secondaires de la pilule sur leur santé? La contraception hormonale existe, mais est-elle pour moi? » Donc elle a fait tout un travail, et donc, entre autres, elle a créé aussi un mouvement qui s'appelle Love Generation, et qui vise aussi à réconcilier sexualité, amour et fécondité. Donc elle insiste beaucoup sur la méthode Billings, mais il y a des choses vraiment très intéressantes pour creuser cette question-là. Donc Thérèse, si vous voulez vous regarder à la fin, si ça vous intéresse. Donc je crois qu'à travers elle, on comprend vraiment à quel point les paroles de Humanae Vitae peuvent nous offrir du sens pour notre approche de la sexualité humaine. Entre autres, ça met en évidence la place du dialogue. Sur une question qui finalement n'est pas si simple, même dans une vie conjugale, de dialoguer sur cette relation très intime, la manière dont j'éprouve du plaisir, la manière dont j'ai besoin de tendresse, la manière dont je suis disponible ou non disponible. Et pour avoir accompagné beaucoup de couples dans des sessions, c'est un vrai challenge pour un couple de reconnaître qu'il n'est pas facile de parler de ça. On a une espèce de fausse pudeur. Et je crois que ce message de l'Église nous invite à oser le dialogue même sur cette question délicate. Par exemple, Jean-Paul II disait « Il suffit d'être seul pour pratiquer la contraception, il faut être deux pour pratiquer les méthodes d'auto-observation. » Voilà, l'importance de parler. Il y a l'importance, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'être à l'écoute du cycle de la femme, d'être à l'écoute de ces moments où elle est féconde, de ces moments où elle ne l'est pas. Il y a aussi l'insistance sur la liberté. Je crois que c'est... J'ai un texte qui est... Oui, c'est ça. Sur la liberté. Il dit, Donc, dans sa conclusion, Thérèse Jacob dit « Dans quelle mesure la méthode Bilix peut-elle être un instrument de libération sexuelle permettant une révolution dans les rapports entre les hommes et les femmes ?» Nous pensons que la méthode Bilix contribue à libérer, à sa manière, les femmes et les hommes en révolutionnant les rapports de genre. Ici, la liberté ne signifie pas le droit de faire ce que l'on veut avec son corps ou le corps de l'autre, mais désigne la capacité d'ordonner ses comportements en suivant les conseils de sa raison et de son intelligence, en vue d'une harmonie sexuelle et conjugale durable. Cette pratique de la régulation des naissances requiert l'exercice de ses potentialités proprement humaines, raison, volonté, intelligence, imagination, en donnant du sens à la dimension sexuelle de notre existence. Voilà la place, finalement, de la liberté. J'ai parlé aussi, et je crois que c'est important, la place de la sèse, la place de l'abstinence, l'attente autre que le désir de l'un ou de l'autre. La notion de faire grandir le désir, faire grandir son propre désir, faire grandir le désir de l'autre. Nous avons un système de régulation des naissances inscrit en nous, c'est toujours elle qui parle. Ce n'est pas un hasard si l'homme est l'un des mammifères les moins féconds. 80 à 90% du temps, la femme est inféconde, ce qui nous fait comprendre que tous les rapports conjugaux ne doivent pas aboutir à une naissance. Grâce à l'abstinence, les relations ne sont plus seulement physiques, biologiques, j'ai envie de dire instinctives. L'abstinence fortifie les sentiments, et l'on peut dire que par la méthode naturelle, on a deux lunes de miel par mois. Entre-temps, les époux s'attendent. Voilà, alors après, ça se discute, on peut réfléchir sur tout ça, mais l'important, je crois, dans une vie conjugale qui aspire à la fidélité, prendre soin du désir. Et je crois que quelque part... cette méthode nous invite à prendre compte de cette dimension aussi, comme si tout n'était pas automatique dans le désir, dans l'union conjugale entre l'homme et la femme. J'ai déjà parlé assez longuement de l'écoute, du respect du rythme du corps de la femme, et peut inviter à une réconciliation avec soi-même. Il y a une femme qui pratique, enfin, qui est enseignante, formatrice sur ces questions-là, et qui dit qu'elle voit arriver parfois des femmes envoyées par des psychiatres pour thérapie de la dépression, avec prescription, observation des cycles de la fécondité. Comme si finalement, se réconcilier avec son corps participait d'une guérison ou en tout cas d'un traitement de la vie psychique. Alors voilà, je vais bientôt m'arrêter. D'un côté, la méthode naturelle, elle est naturelle, puisqu'elle se base sur les signes physiologiques de la fertilité, puisqu'il y a un enjeu écologique de santé aussi, puisqu'il n'y a pas d'intervention d'un moyen technique, en particulier d'un moyen hormonal, donc il n'y a pas d'action négative sur la santé de la femme, des hommes, des enfants. Et en même temps, c'est Thérèse Jacob qui dit qu'elle est contre-naturelle, puisqu'elle invite l'homme et la femme à se libérer du déterminisme biologique et hormonal, qui les fixerait dans un comportement dicté par la pulsion sexuelle en vue de la reproduction. Les méthodes naturelles impliquent de laisser faire la nature dans ses processus, mais non de se laisser faire passivement par les comportements naturels auxquels elle dispose. Donc, voilà, tout l'enjeu de s'approprier et d'être responsable de sa vie sexuelle. Donc voilà, pour conclure, j'ai essayé de dégager du sens. J'ai insisté sur la notion de chemin, qui pour moi me paraît essentielle, de quitter la dimension de permis défendu pour voir un chemin de la vie conjugale en acceptant les moments où la vie nous impose de faire des détours, où il y a des échecs, des situations difficiles. Je crois que le message d'humanité au plus profond et pour la société d'aujourd'hui, il y a un article que j'avais apporté, on a fêté il n'y a pas longtemps, ben oui c'est ça, en 2008, l'anniversaire d'humanité, et dans Libération, qui n'est pas forcément un grand journal catholique, il y avait marqué humanité, un message prophétique. Et je crois, quand on relit aujourd'hui, il y a une vraie prophétie, il y a vraiment quelque chose d'une promesse pour l'homme à travers ce message. C'est la promesse de regarder avec justesse et en vérité la réalité de l'acte sexuel dans toute son ambivalence. D'un côté, c'est vraiment le sommet de l'amour entre un homme et une femme, c'est vraiment perçu comme le lieu où il y a une vraie union, une vraie communion, un vrai plaisir partagé. Et en même temps, c'est aussi le lieu parfois, malheureusement, de profondes souffrances, de blessures, d'incompréhensions, de violences, d'échecs. Et l'humanité nous renvoie à cette ambivalence de l'acte sexuel. Et donc un chemin à laquelle nous sommes invités, parce que je crois qu'il faut accepter que l'amour s'apprend. Même l'amour. C'est Denis Sonnet qui dit ça. Même l'amour, il faut l'apprendre, il faut apprendre à aimer. C'est pas, alors il y a l'idée du coup de foudre, mais après il faut le vivre, ce coup de foudre, jusqu'au bout. Et pour qu'il dure. Et en particulier, un amour qui passe par nos corps d'homme, nos corps de femme, un amour qui se réalise dans l'union corporelle entre un homme et une femme, ça demande du temps, ça demande de l'écoute, ça demande de mettre des mots, ça demande, je crois, un véritable apprivoisement de l'autre. D'abord de soi-même, j'ai insisté, d'abord de soi-même et de son propre corps, et puis du corps de son mari ou de sa femme. Voilà. Et ce temps de l'apprivoisement, il est très important, et trop souvent, il est banalisé. Donc je m'arrêterai là pour l'instant, mais je laisse place aux questions.